À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Dans l'émission précédente, nous avons commencé à aborder la question de la toute-puissance de Dieu et de la difficulté de tant de nos contemporains à accepter l'idée d'un Dieu qui serait tout-puissant, alors que le mal les touche dans leur propre vie et semble à l'œuvre de plus en plus dans la société. Pour certains, l'expérience de la fragilité est vécue comme l'épreuve du mal. Peut-être parce que dans notre société, on voudrait être tout puissant et ne jamais souffrir, mais aussi parce que certaines fragilités nous déshumanisent ou en tout cas nous atteignent si profondément que nous les vivons comme un mal. Se découvrir faible et dépendant correspond pour certaines personnes à la révélation qu'elles ne sont pas plus fortes ou plus grandes ou plus résistantes que les autres au malheur. Nous savons que très souvent nous pensons que le malheur c'est pour les autres. En tout cas c'est ce que nous voudrions. Et puis voilà, reviennent les questions quand ça nous atteint. Pourquoi moi? Dieu m'abandonne-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait pour que ce soit moi, sur moi, que cela tombe aujourd'hui? Vient alors la difficulté du scandale, de la souffrance et de l'impossibilité d'expliquer l'origine du mal dont j'ai déjà parlé. Nous allons creuser cette question parce que, effectivement, un certain discours sur le mal dans l'Église a découragé beaucoup de gens et il nous faut avoir le courage de regarder cela en face. Au début de cette série d'émissions, j'ai parlé d'un travail de déminage par rapport à des discours que je considère comme pervers à propos de Dieu. Donc, continuons à réfléchir là-dessus, non pas pour critiquer le passé, non pas pour régler des comptes, mais pour essayer de libérer un chemin d'espérance pour des personnes qui en sont restées à cette vision-là et qui sont dans la révolte, qui sont dans la fermeture. Des personnes qui sont peut-être à l'écoute pour le moment, sur un lit d'hôpital, dans un appartement où on était abandonné par son conjoint, face à l'épreuve d'une mort, d'un accident. Et c'est grave parce que au moment où l'expérience de la fragilité, du mal dans notre vie, devrait nous inviter à nous tourner vers Dieu, à puiser force et consolation dans notre foi, voilà que précisément c'est le moment où nous mettons tout en doute. Nous nous demandons si nous ne sommes pas complètement trompés, si notre foi n'est pas qu'une illusion. Et nous entendons alors les gens qui nous disent autour de nous « Comment peux-tu être croyant ?» Que non, peux-tu croire en un Dieu qui est bon quand tu vois ce qu'il fait de toi alors que toi tu as toujours fait ce que tu devais? Dans le catéchisme de l'Église catholique que j'ai cité déjà la fois précédente, on lit que Dieu révèle sa toute-puissance dans l'abaissement volontaire et la résurrection de son Fils. Ce n'est pas si facile à comprendre. Mais nous touchons là quelque chose de central dans le mystère chrétien, qui est la place de la croix. Mais il faut bien la comprendre, la place de cette croix. Parce que pour certains, la croix n'est qu'une valorisation de la souffrance pour elle-même. Il faudrait presque être heureux de souffrir. Et on continue à penser que Dieu aurait eu besoin de la souffrance de son Fils pour calmer sa colère contre les hommes. C'est un discours qu'on a entendu pendant des siècles. Nous aurions tellement offensé Dieu, nous sommes tellement pécheurs, qu'il n'y avait que Dieu lui-même devenu homme, souffrant des tortures atroces, qui pouvait satisfaire le Père, satisfaire dans le sens de calmer sa colère. On appelait ça la théologie de la satisfaction, calmer Dieu, ou de la substitution. Jésus se substitue à nous pour porter notre péché, notre punition du péché, dans des souffrances atroces. Alors bien sûr, si on a cette image-là, et si on insiste tellement sur le fait que le Christ a pris notre place sur la croix, que c'est nous qui aurions dû souffrir, tellement nous sommes pécheurs, nous avons alors cette idée que, eh bien, le Christ est éternellement en agonie, et nous devrions même chercher volontairement à souffrir avec lui. Pourtant, nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8, que Dieu nous a montré son amour et de quelle façon il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Donc que nous ne méritions pas cet amour. Plutôt que de nous enfoncer dans une culpabilité morbide où nous devrions payer la mort du Christ. Autre chose est de vivre une souffrance en communion avec le Christ. Autre chose est de rechercher la souffrance. Jésus n'a pas cherché la souffrance. Et quand il était à Gethsémani, il a même demandé que cette souffrance s'éloigne de lui. Il a assumé la souffrance par amour pour nous. Le scandale de la croix, c'est que l'homme n'ait pas été capable de reconnaître dans l'amour du Christ la révélation de l'amour de Dieu. Qu'un juste, le Fils de Dieu, ait été assassiné malgré son innocence. Mais n'existe-t-il pas un autre scandale de la croix, celui que nous avons fabriqué, lorsque nous disons que le Christ a été obligé d'être torturé pour calmer son Père dans la colère? Ce n'est pas de ce scandale-là que parlent les évangiles ou saint Paul. Le sang versé du Christ n'est pas le sang versé à un Dieu vengeur dans une souffrance réparatrice. Il s'agit d'un don d'amour. C'est parce que Jésus a aimé qu'il a souffert. Il n'a pas cherché à souffrir. Il a aimé jusqu'au bout, et quand on aime jusqu'au bout, on fait l'expérience de la souffrance. Ce don d'amour qu'il a fait non seulement à son Père et à toute l'humanité, mais aussi le don d'amour que le Père a fait en acceptant de nous donner son Fils pour nous combler de sa vie. Au lieu de souligner avec gratitude que le Christ est mort pour nos péchés et notre libération, on a beaucoup insisté à certaines époques sur le fait que le Christ est mort à cause de nos péchés, et donc ayant pris notre place dans la souffrance, le plaisir devenait une offense à Dieu. Il n'est pas possible de connaître le plaisir alors que notre Dieu n'arrête pas de souffrir jusqu'à la fin des temps. Un tel discours aujourd'hui est devenu totalement insupportable. Et sans doute qu'on l'a poussé trop loin et qu'on n'a pas toujours dit ça. Il n'y a que certaines époques où cela a été dit. Mais ce qui est curieux, c'est que ce sont ces images-là qui continuent à circuler dans l'esprit de certaines personnes. Cela montre d'ailleurs qu'il y a souvent dans la pensée des hommes des choses très archaïques au niveau de la culpabilité, qui vont bien au-delà de la responsabilité du christianisme lui-même à ce sujet. Évidemment, avec cette vision-là de la souffrance de Dieu que nous devons payer, se sont ensuite diffusées l'obligation de perfection et une certaine vision de ce qu'on pourrait appeler un héroïsme chrétien. Il faut absolument souffrir et s'en réjouir. Il me semble qu'il est important d'assumer les conséquences de ce passé qui garde tant de traces aujourd'hui, parce qu'il conduit à des questions inévitables lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. Quand on dit que le Christ a payé une rançon pour la multitude, a été même donné en rançon pour la multitude, on peut se poser la question, à qui a-t-il payé cette dette? Au Père ou à Satan? À aucun des deux. Quand on dit qu'il a été donné en rançon, c'est un petit peu dans le sens où nous dirons « cela m'a coûté cher, j'ai beaucoup payé de ma personne ». En donnant le meilleur de moi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on a payé quelque chose à quelqu'un. Ce que l'on veut dire ici, c'est que le Christ s'est totalement donné dans un acte d'amour sans limite pour nous donner la vie. Quand on réfléchit à la question du mal, quand on interroge Dieu à propos du mal qu'il y a dans le monde, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les génocides. Que ce soit la Shoah, le génocide du peuple juif, que ce soit ce qui s'est passé au Rwanda, ou ce qui peut se passer encore à d'autres endroits sur notre planète. Parce que c'est un mal tellement absolu, tellement énorme, qu'il pose de très grandes questions. Quand on vit de grandes fragilités, le fait d'entendre parler ou de voir que des génocides ont été possibles ne fait que confirmer parfois un sentiment de solitude, un sentiment d'une absence de Dieu. On se pose la question, comment a-t-il pu tolérer cela, ce qui laisse entendre qu'il aurait pu l'empêcher et qu'il ne l'a pas fait. On le voit bien à propos du nazisme, de la Shoah, je vais en parler maintenant, parce que c'est une épreuve terrible pour la foi, autant pour les juifs que pour les chrétiens. Et la question s'est posée, peut-on parler de la même façon de Dieu après Auschwitz? À cause justement de l'impression d'une absence de Dieu à cette tragédie. Le pape Benoît XVI, en visite à Auschwitz en mai 2006, a reposé cette question. Où est-ce qu'il, à ce moment-là, il dit « Où était Dieu en ces jours-là? Pourquoi s'est-il tu ? Nous ne pouvons pas pénétrer le secret de Dieu. » Donc cette question continue à être là. Et le lendemain de la Shoah, elle habitait profondément les personnes qui ont découvert les camps de concentration, les camps d'extermination. Il nous faut donc réfléchir à cette question, mais sans oublier que la question de la Shoah s'adresse aussi bien à l'homme qu'à Dieu. On dit que Dieu était mis en échec à ce moment-là, mais d'abord considérons que l'homme aussi était mis en échec. Parce que Auschwitz, les camps de concentration, c'est aussi l'échec d'une société moderne qui avait tout misé sur la raison et sur la conscience personnelle comme fondement de l'éthique. Le nazisme avait évacué Dieu. Il a voulu rationaliser la société à partir d'un élitisme au service de la toute-puissance de surhomme. Et donc Auschwitz met autant en question la toute-puissance de l'homme, fondée sur la raison, qu'un discours sur la toute-puissance de Dieu employé sans discernement. Il faut considérer les deux aspects alors que l'humanité y est confrontée au mystère du mal, qui a pris alors des dimensions sans précédent. Car le scandale de la Shoah n'est pas seulement de l'ordre du quantitatif. Il y aurait eu plus de morts que lors d'autres massacres, ce qu'on appelait les pogroms, etc., à propos des Juifs. Mais c'est de l'ordre du qualitatif. Car il s'agit de la tentative d'extermination totale d'un peuple. À certains moments, on a parlé d'Holocauste, mais ce mot est tout à fait inadapté, parce que l'Holocauste, c'était un sacrifice décidé par l'homme, ou en tout cas accepté par l'homme, qui plaît à Dieu. Les holocaustes d'agneaux gras qui étaient offerts au temple. Ici, il ne s'agit pas d'Holocauste, il s'agit d'un mal absolu. C'est un philosophe juif appelé Hans Jonas qui aide à creuser cette question. Il la pose de façon très claire lors d'une conférence qu'il a donnée en 1984 sur le thème « Le concept de Dieu après Auschwitz ». Il constate que l'homme contemporain se sent responsable de plus en plus de sa vie. Et plus il se sent sujet, plus il veut utiliser sa conscience et sa liberté, plus il s'interroge sur le mal et sur le sens du mal. Et pour Jonas, la grande difficulté, c'est qu'on ne pourrait plus tenir ensemble depuis Auschwitz les trois affirmations « Dieu est tout-puissant, Dieu est tout amour, Dieu est cohérent, intelligible. » Au moment même où il se tait ou semble absent, ou apparaît impuissant lors d'un génocide, lors de la Shoah. Et voici comment il raisonne. Pour dire donc qu'on ne peut pas tenir ensemble ces trois affirmations. Si Dieu est tout-puissant et qu'il est tout amour et qu'il a laissé faire la Shoah, il est incohérent, car la Shoah est un mal absolu. Si Dieu est tout-puissant et qu'il laisse faire la Shoah, il n'est pas tout amour. Si Dieu est tout amour et qu'il laisse faire la Shoah, il n'est pas tout-puissant. Or, la Shoah a eu lieu, injustifiable. Or, dit-il, nous ne pouvons pas lâcher la cohérence de Dieu. Dieu est intelligible. Le Dieu de la Bible est cohérent et responsable, c'est le Dieu de l'Alliance. On ne peut pas non plus, bien sûr, renoncer à l'idée que Dieu est amour, à la révélation que Dieu est amour. Alors, qu'est-ce qui reste à mettre en question dans les trois termes qui sont incompatibles selon lui? C'est la toute-puissance. Et donc, Hans Jonas en vient à la conclusion que Dieu n'est pas tout-puissant tel qu'on le conçoit habituellement. Et s'inspirant d'un récit que l'on trouve dans la Kabbale, il raconte ce mythe. Dieu a créé le monde en se rétractant. C'est-à-dire, dit-il, à l'origine, Dieu occupait tout l'espace. Et le jour où il a créé l'homme, il s'est contracté pour laisser un espace totalement pour l'homme. Ainsi, il se serait tellement retiré qu'il a laissé l'homme assumer seul l'œuvre de la création, dans laquelle il ne peut plus intervenir. Et Jonas décrit Dieu comme étant inquiet de voir ce que l'homme fait de sa liberté et ce qu'il va faire de la création. Et donc, lorsque l'on va jusqu'au bout de ce raisonnement, on en arrive à affirmer qu'en définitive, Dieu est impuissant aujourd'hui par rapport à l'expérience de l'homme, à la vie de l'homme. Et donc, il ne pouvait rien faire à Auschwitz. C'est bien sûr cette conclusion qui tranche le plus avec l'approche de la réponse chrétienne, avec la réponse que donne l'Évangile. Si pour lui, pour Jonas, Dieu s'est condamné à l'impuissance en se retirant à la suite de la création, pour la foi chrétienne, même si Dieu respecte la liberté de l'homme et l'ordre de la création, il reste cependant puissamment à l'œuvre dans le monde et dans l'histoire, parce que Dieu ne revient jamais sur son alliance. D'un point de vue chrétien, Dieu, en créant le monde, a certes accepté de se soumettre aux lois qu'il a fixées. Même s'il peut exister des miracles qui semblent aller contre les lois de la nature, qui sont d'ailleurs plutôt des accélérations des lois de la nature, il faut reconnaître que Dieu, normalement, utilise des intermédiaires humains, des médiations ecclésiales. Il passe par des communautés, par des personnes, par la nature, etc. Dieu a créé l'homme libre. Et en créant ce monde, il a donné à l'homme une véritable autonomie. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme capable de lui dire non. Et dans ce sens-là, Dieu a renoncé à exercer sa toute-puissance par amour, c'est-à-dire par respect de la liberté de l'homme. Ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il l'a créé libre et capable de lui dire non. De même qu'il l'a créé capable de dire « Abba, Père, Papa à Dieu ». Et notre expérience nous l'a appris. Si nous nous situons dans la toute-puissance, nous ne sommes plus dans la relation. Notre Dieu est un Dieu de relation, de réciprocité, à l'écoute de la réponse de l'homme. Et c'est bien ce que vivent d'ailleurs les parents, comme nous l'avons dit, ou les conjoints. Lorsqu'on est dans la relation, on n'est pas dans la toute-puissance, dans le sens qu'on pourrait totalement manipuler la réalité. Pas plus Dieu que nous. Nous pouvons offrir notre amour, nous ne pouvons pas l'imposer. Dieu ne le fait pas. Nous pouvons vivre ce sentiment d'impuissance lorsque, comme parents par exemple, nous assistons au suicide d'un enfant. Jésus lui-même a fait l'expérience d'une certaine impuissance lorsqu'il a voulu faire des miracles à Nazareth et qu'il n'a pas pu. Notre Dieu n'est pas impuissant, mais il est puissant et vulnérable. Cette vulnérabilité de Dieu, c'est sa façon d'aimer. Je disais donc que quand Dieu s'offre, il n'oblige pas l'homme à répondre. Il fait appel à notre liberté et à notre responsabilité, ce qui le rend vulnérable. Ce qu'il fait qu'il a renoncé à exercer une toute-puissance, c'est ce que dit Peggy quand il dit « Dieu n'attend pas de nous des prosternements d'esclaves, mais une confiance d'enfant ». Et donc, il n'est pas tout-puissant dans le sens que il irait contre notre liberté, il irait contre les lois de la création. Il faut comprendre sa toute-puissance autrement et nous y viendrons. Mais il est puissant et nous nous émerveillons de la puissance de son esprit lorsque nous le laissons agir en nous. Parce qu'effectivement, son esprit dans nos cœurs nous tourne vers lui et nous permet de nous dépasser. Son esprit nous transfigure. Cet amour qui s'offre s'exprime comme le faisait Jésus, « Si tu veux, suis-moi » ou dans le Deutéronome, « Choisis la vie ». Dieu ne se présente pas comme les anciens le pensaient à travers des phénomènes cosmiques, la foudre, des tremblements de terre, le soleil, les orages. Lorsque Élie demande à voir Dieu et demande un signe, il se présente dans la brise légère, au premier livre des Rois au chapitre 19. François Varion, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'humilité de Dieu, il écrit « Dieu n'est qu'amour ». Je ne dois pas dire que Dieu est tout-puissant, puisqu'il n'est qu'amour, il n'est pas autre chose. S'il n'en va pas ainsi, ne disons pas que Dieu n'est qu'amour. Disons qu'il est tout-puissant, qu'il est aussi amour et qu'il nous aime aussi. Mais l'amour n'est pas un attribut de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Et tout le reste, ce sont des attributs de l'amour. La puissance est un attribut de l'amour, la vulnérabilité. Si vous parlez d'une toute-puissance de Dieu, ce serait dans le sens de cette grandeur d'avoir créé des libertés. Dieu a pris un risque immense dans sa création. Et on le voit dès le début, dès le récit de la Genèse, lorsque le soir il cherche Adam qui s'est caché. Dans ce récit, à peine créé, Adam veut prendre la place d'un Dieu qu'il imagine tout-puissant. Il découvre qu'il est nu, il découvre qu'il n'est pas grand-chose, il découvre qu'il n'a pas à prendre la place qui n'est pas la sienne. Et nous sommes tous tentés un jour ou l'autre d'être tout-puissants, de prendre la vie des autres en charge, de tout contrôler, dans notre vie ou dans celle des autres. Or, comme nous le dit Xavier Thévenot, la vie spirituelle est un chemin de démaîtrise, alors que nous sommes dans un monde où nos contemporains ont plutôt la tentation de tout contrôler. Et on veut pouvoir punir celui qui a transgressé et retrouver des traces. On peut cependant parler d'une toute-puissance de Dieu dans le sens que Dieu garde en vie toute réalité. Il est créateur de vie et d'être. Il est celui qui maintient toute créature dans son être, car la création est permanente. Dieu ne cesse de créer. Dans un acte de puissance, de vie et d'amour, il donne sans cesse la vie. Et quels que soient les échecs, il continue à nous faire confiance et à créer. C'est une toute-puissance de plénitude. De même que l'on peut dire que cette toute-puissance est exprimée à la création du monde et puis à la fin des temps quand tout sera récapitulé. Mais dans l'entre-deux, dans le temps d'aujourd'hui, comme nous dit l'Apocalypse, il frappe à la porte et il attend que nous ouvrions. à nous de nous montrer responsables face à cette liberté qu'il nous a donnée. Car nous avons la liberté de dire oui ou non, mais nous avons aussi la liberté et la responsabilité de former notre conscience. C'est à partir d'une conscience informée et formée que nous pouvons prendre des décisions justes et assumer notre liberté. Dieu nous responsabilise. Il nous appelle à être vraiment des êtres humains. Et c'est une grande différence entre la magie et la vie spirituelle. Beaucoup de gens sont tentés aujourd'hui par la magie. Parce que dans la magie, lorsque la bonne personne dit les bonnes paroles au bon moment, le résultat est censé se produire automatiquement. Là, l'homme est d'une certaine façon dans la toute-puissance. Il peut agir sur la divinité, il peut agir sur le cosmos de façon automatique. Et de nombreuses personnes aujourd'hui cherchent des objets, des paroles, des attitudes magiques pour résoudre le problème de leur vie, en fuyant en fait leurs responsabilités. Alors ce sont les billets de loterie, ce sont les voyants, ce sont peut-être même carrément des pèleries d'anges chrétiens dont on attend des résultats magiques. Et là on est dans une conception païenne de la toute-puissance du divin. Il n'y a pas de conscience ni de liberté personnelle. Dans une démarche spirituelle, on n'est pas dans ce binôme fusionnel, mais on est à trois. Il y a l'intercesseur, il y a la personne pour laquelle on intercède, et c'est parfois nous-mêmes, et puis il y a Dieu. Et là, l'homme s'adresse à Dieu en lui laissant la liberté de répondre parce que lui sait ce qui est bon pour ses enfants. Et nous pouvons nous poser la question, quelle est ma manière de prier, d'intercéder ? On voit parfois des gens qui font des dons, brûlent des cierges, ou bien se multiplient les cérémonies de prière et de guérison et d'intercession, avec une espèce de pression sur Dieu, une manipulation de Dieu. Il faut absolument que Dieu donne ce qu'on lui demande. Et du coup, d'ailleurs, ça nous rend incapables de nous rendre compte qu'il nous répond autrement. Qu'il y a des signes qui nous sont donnés, mais que nous ne voyons pas parce que nous exigeons qu'il nous réponde de telle façon. Cela n'empêche, il est vrai, que nous pouvons être parfois très déconcertés devant ce qui nous semble être le silence de Dieu. Nous comprenons donc ici que Dieu n'est pas tout-puissant dans le sens le plus spontané du terme, mais qu'il n'est pas impuissant. Et saint Jean nous dit au chapitre 5, au verset 17, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi. » Notre Dieu est à l'œuvre. Notre Dieu frappe à notre porte, et quand nous ouvrons la porte, il vient établir en nous sa demeure, et nous devenons branchés sur la vigne capable de fécondité. Dieu est vulnérable, c'est ce que dit le psalmiste, quand il nous rappelle que quand un pauvre crie, Dieu écoute. Dieu n'est pas indifférent, il nous est infiniment proche. La difficulté, c'est de croire à cette proximité du cœur de l'obscurité et de la souffrance. Un pasteur protestant, Daniel Bourguet, disait « Dieu n'est pas absent, il est pudique. » Dieu ne s'impose jamais. Avec le jeune homme riche, il lui dit « si tu veux ». Nous savons aussi que Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « combien de fois j'ai essayé de rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits, ses poussins ». Donc nous pouvons dire que Dieu est vulnérable sans porter atteinte à sa transcendance. C'est la vulnérabilité d'un Père dont l'amour est puissant, mais qui ne s'impose pas à notre liberté par la toute-puissance. C'est ainsi que Dieu nous aime.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.